Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis accro à l'Église. Je suis un fanatique de l'Église. J'adore l'Église. C'est ma vie et mon souffle. C'est la source de ma plus haute joie et de ma plus grande angoisse. C'est dans mon esprit tout le temps. Je vis en quelque sorte dans l'aura de l'Église. Tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle demande, exige et fournit. C'est une vraie aventure d'être pasteur. Si je ne pouvais pas être un président, cela ne me gênerait pas. Si je ne pouvais pas être un prédicateur radio ou un auteur, cela ne me gênerait pas non plus. Mais si je n'étais pas pasteur, ce serait la plus grande perte de ma vie. Le point culminant de ma vie a été mon passage à Grace Community Church. L'Église n'a jamais cessé d'être une aventure vraiment incroyable. Les premières années de vie dans l'Église étaient presque euphoriques. L'Église grandissait très rapidement. Les gens aimaient la parole de Dieu. Des conversions dynamiques ont eu lieu, et bien plus que quiconque ne s'y attendait. Nous apprenions au fur et à mesure. Je ne savais pas grand-chose. Je découvrais pendant la semaine, je prêchais mes découvertes le dimanche, et je la mettais en œuvre la semaine suivante dans l'Église. Nous étions tous donc dans cette grande aventure, essayant de découvrir ce qu'était vraiment l'Église, essayant de trier la théologie, d'interpréter la Bible, de comprendre comment l'appliquer, et ce n'était qu'une incroyable aventure. Mais toujours depuis le début, le but était de développer l'Église de manière à en faire ce que le Seigneur de l'Église voulait qu'elle soit, à regarder la parole de Dieu et à essayer de discerner quelle révélation dans le Nouveau Testament nous parle de l'Église, quels sont les plans, les buts et les attentes de Dieu pour l'Église, et ensuite comprendre comment mettre en œuvre cela, et réaliser la volonté parfaite de Dieu dans l'Église à travers des personnes totalement imparfaites. C'est là que réside le grand défi. Ils savent tous que je suis tout aussi imparfait, et cela rend même le défi encore plus grand. Mais cela a été une immense aventure. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de quelque chose qui sort comme ça, sans réfléchir, comme à l'improviste, ou de quelque chose que, je l'espère, pourrait être vrai. Mais quand je parle de l'Église, je parle de ce à quoi j'ai accroché le plus d'attention tout au long de ma vie. Je crois que l'on peut comprendre ce que la Bible dit à propos de l'Église. Je ne pense pas que cela soit ambigu. Je ne pense pas que le Seigneur ait dit « Maintenant, sortez et construisez l'Église. Ce sera une énigme. Et voyez si vous pouvez la comprendre. » Je pense qu'il est manifestement évident ce que doit être l'Église. Donc, une fois que vous avez discerné cela dans les Écritures, vous pouvez passer à la mise en œuvre dans la vie des personnes. C'est ce que nous avons essayé de faire pendant toutes ces années, et Dieu nous a permis de créer un séminaire où nous pouvons former des hommes à faire la même chose, avoir une influence dans le monde entier avec des pasteurs, des enseignants et des dirigeants qui cherchent à faire la même chose. Cela a été la grande joie de ma vie. Même si certaines personnes peuvent supposer que l'Église est quelque peu complexe, je suis convaincu que ce qui rend vraiment l'Église efficace est assez simple. C'est ce que je veux partager avec vous. Je vais en dévoiler certains éléments, et il y aura des choses qui, je pense, ne vous surprendront pas. En fait, il peut y avoir une certaine indifférence lorsque vous m'entendrez les dire. Je comprends cela parce que j'ai appris quelque chose en ayant vécu depuis plusieurs générations dans l'Église. J'étais là quand j'avais la vingtaine, et donc j'étais là quand les jeunes étaient vraiment le cœur et l'âme de l'Église. Et maintenant, ce sont ces personnes qui ont mûri et sont devenus les anciens de l'Église, ceux qui dirigent l'Église. J'ai vu leurs enfants, j'ai vu leurs petits-enfants, j'observais les processus des générations dans un seul endroit. J'ai trouvé qu'à quelques exceptions près, il est généralement vrai que la première génération se bat pour la découverte et l'établissement de la vérité. Il y a une vraie joie de vivre. Il y a une vraie passion chez cette première génération, les nouveaux chrétiens, les personnes qui viennent de s'éveiller aux réalités de la vérité divine. Il y a une passion à la prendre, à la connaître, à la défendre, et à se battre pour cela. La deuxième génération a tendance à essayer de le maintenir, et peut-être même de l'étendre. Les 10-15 premières années de Grace Church, ou peut-être même jusqu'à 20 ans, nous avons vraiment travaillé dur pour cristalliser et clarifier la doctrine. C'est pourquoi l'Église a une telle déclaration doctrinale, qui est aussi la déclaration doctrinale du collège et du séminaire. Nous avons travaillé en tant que personnel à la rédaction d'articles sur toutes sortes de questions théologiques. Nous avions des réunions du personnel et j'ai demandé à des hommes d'écrire des articles sur divers sujets théologiques que nous devions élaborer, discuter, et nous les avons appelés exposés de position. Nous développons toujours ce genre de choses aujourd'hui, mais cette première génération était principalement engagée dans le développement de la vérité, dans la compréhension de la vérité, dans la systématisation de la vérité, de manière approfondie et cohérente avec les Écritures, sans l'imposer aux Écritures. Notre but était d'établir la vérité, la découvrir et l'affiner. Maintenant, nous sommes dans la deuxième génération, et ce que nous voyons, c'est le désir de maintenir la vérité, de garder la vérité, et deuxièmement, d'étendre la vérité. Il y a eu, je suppose, vers la 20e année à Grace Church, ce désir de porter la vérité au bout du monde, de faire traduire des livres dans toutes les langues imaginables. Je parlais à un de nos jeunes qui est diplômé du séminaire. Il vient de rentrer de la Croatie, où ils ont implanté un centre de formation pour apporter la vérité dans cette partie du monde. Nous avons ce genre de mentalité spirituelle chez nos jeunes hommes, que vous trouvez dans 1 Jean, où il parle des jeunes hommes vaillants pour la vérité. Ils connaissent la vérité, et ils veulent se battre pour la vérité. Ils surmontent le méchant qui est un menteur, et le père du mensonge, qui essaie bien sûr de détruire la vérité. Donc je regarde cela, et je pense que nous pouvons décrire la vie de notre Église, probablement de façon générationnelle. Nous sommes passionnés par le maintien de la vérité. Nous sommes passionnés par l'extension de la vérité. En fait, l'un des hommes qui était à la conférence des bergers récemment, il n'était jamais venu auparavant, et vient du Texas, et il a dit à l'un de nos anciens à la fin de la conférence, « Je comprends. J'ai compris. Je sais de quoi parle cette Église. Il s'agit de proclamer et de protéger, n'est-ce pas ?» Notre ancien a répondu, « Oui, c'est exactement cela. Il s'agit bien de proclamer et de protéger. Il y a une passion, et je pense que c'est un endroit merveilleux pour se trouver, pour connaître la vérité, établir la vérité, affirmer la vérité, comprendre la vérité, et être passionnément engagé à maintenir la vérité et à proclamer la vérité. Mais il y a une troisième phase, et historiquement, elle se déroule de cette façon. La troisième génération est apathique. Elle est apathique. Ces gens ne faisaient pas partie du processus de découverte. Ils ne faisaient pas partie du processus de raffinement. Donc, ils ne comprennent pas la douleur, l'endurance et l'acharnement que vous avez traversé pour y arriver. Ils ne l'étaient vraiment pas, parce qu'ils ne se battaient pas pour comprendre cette vérité. Ils ne se battaient pas pour défendre cette vérité. Ils sont arrivés juste à un moment donné. Évidemment, nous avons des personnes qui affluent dans Grace Church. Nous avons des personnes qui affluent au collège, même maintenant. Des personnes qui affluent dans le séminaire, qui n'ont jamais été dans la bataille pour définir la vérité, qui n'ont jamais été dans la bataille pour défendre la vérité, qui sont arrivés lorsque tout le travail était terminé. Cette tendance est donc une attitude d'apathie. C'est vraiment triste. Vous ne voyez des personnes qui vont à l'église aujourd'hui que si cela leur convient. Elles ne sont vraiment pas excitées par la découverte de la vérité. Elles ne sont pas particulièrement énergisées par le raffinement de la vérité. Elles ne sont pas très intéressées par la protection de la vérité, par la proclamation de la vérité, par le partage de la vérité. Elles viennent quand elles le peuvent et elles se présentent quand elles le veulent. Vous prenez la prédication de la parole de Dieu pour acquise. Vous prenez la vérité pour acquise, parce que vous ne faisiez pas partie du processus. Donc elle n'a aucune valeur pour vous. Vous êtes comme un enfant riche qui a tout l'argent pour acheter des choses, mais qui ne comprend rien à la valeur, car aucun sacrifice n'a été nécessaire pour l'acquérir. C'est là que la vie de l'Église devient difficile. C'est à ce moment-là que les personnes se demandent si le climatiseur souffle trop sur le cou ou non, si elles peuvent trouver une place de parking, si le moment du culte va interrompre les plans de la journée, si le sermon est trop long ou le banc pas confortable. Elles deviennent absorbées par tous ces détails. J'ai suffisamment lu l'histoire de l'Église, et même l'histoire de l'Église contemporaine et moderne, pour savoir qu'il y a un moment dans la vie de l'Église où cela devient la caractéristique dominante, parce que cette troisième génération ne faisait pas partie de la lutte, et c'est une chose effrayante. Peut-être que je mourrai avant d'être obligé de m'en occuper trop, mais à l'avenir, quelqu'un devra s'en occuper. Je reçois beaucoup de lettres. J'ai reçu, je pense, une lettre de 24 pages l'autre jour. C'est une chose effrayante. Vous savez, vous êtes tellement occupé. Vous recevez une lettre de 24 pages et vous dites « Vraiment, dois-je lire ceci ?» Habituellement, cela vient d'une personne bizarre qui, vous savez, écrit sans espace, puis écrit sur le côté, en haut, en bas, sur le côté, au dos et sur l'enveloppe, vous savez. Mais elle venait d'une dame. Son nom est Dorothée. C'est une lettre absolument. C'est peut-être la lettre la plus incroyable que je n'ai jamais reçue, et j'ai lu les quelques 20 pages en entier. J'étais tellement ému par cette lettre que je l'ai fait taper à la machine pour la garder en souvenir. Cette femme a traversé cet incroyable processus de compréhension de l'Évangile. Elle venait d'Allemagne. Elle est venue en Amérique. Elle a épousé un vrai abruti. Sa vie était atroce. Elle est écrivain et journaliste. Elle a essayé de trouver la vérité. Elle a assisté à des cultes. Elle haïssait Dieu, haïssait le Christ, et elle continue à écrire tout cela, et elle est douée pour l'écriture. Au fil des années, elle devient de plus en plus désespérée. Petite, sa mère était impliquée dans l'occulte. Son père pratiquait la démonologie. Elle ne pouvait pas dormir la nuit de peur d'être tuée par des démons, et elle avait toutes ces peurs incroyables. Elle avait été maltraitée en tant qu'enfant. L'histoire continue encore et encore. Pour faire court, elle allume la radio. Elle écoute Grace to You, notre émission. C'est une série sur la Seigneurie du Christ. Elle entend le message. Elle écrit pour demander le livre. Le premier livre qu'elle lit est « La Seigneurie du Christ ». Elle et son mari l'ont lu à haute voix, mot pour mot. C'est une introduction assez lourde au christianisme. Elle a décidé qu'elle n'était pas sûre que les documents du Nouveau Testament ne soient réellement exacts. Et elle avait donc besoin de le savoir. Alors, elle est allée chercher le livre de F.F. Bruce sur les documents du Nouveau Testament et l'a lu. Elle est arrivée à la conclusion que Jésus-Christ était ce qu'il prétendait être. Le Nouveau Testament était ce qu'il prétendait être. Elle se trouve dans une voiture lisant, encore une fois, l'Évangile de Jésus-Christ avec son mari, et elle se convertit à Christ. Puis elle continue environ 5 pages pour décrire de la manière la plus claire cette soif absolument insatiable de connaître la vérité. Elle dit qu'elle pleure de connaître la vérité. Elle tombe sur son visage devant Dieu pour connaître la vérité. Elle tombe à genoux devant Christ et plaide qu'il lui montre la vérité. Quoi qu'il en soit, elle finit par comprendre dans la parole de Dieu, et elle croit implicitement, sans poser de questions, et elle démontre le vrai travail de Dieu dans un cœur transformé. Vous savez, on pourrait souhaiter avoir une église pleine de personnes comme cela, qui ne peuvent jamais obtenir assez de la vérité, qui s'accroche à chaque élément de la vérité, parce que c'est une nourriture qui n'est pas comme les autres, parce que c'est tellement satisfaisant pour l'âme. Si cela ne vous satisfait pas, alors vous avez en quelque sorte développé de mauvaises habitudes alimentaires spirituelles, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous nous éloigner de ces dangereux lieux d'apathie, qui se glissent si facilement dans nos vies? Beaucoup d'entre vous appartiennent à ce genre de catégorie de troisième génération. Vous venez d'un foyer chrétien. Vous venez de parents qui sont venus de parents chrétiens. Vos grands-parents connaissent peut-être le Seigneur. Vous avez été élevé dans l'Église. Vous ne vous êtes pas battu pour la vérité. Vous venez de recevoir la vérité. Comment luttez-vous contre la tendance à être apathique à ce sujet? Comment évitez-vous le danger du privilège spirituel? Michael Griffiths, l'écrivain britannique, a déclaré « Les chrétiens semblent collectivement souffrir d'une étrange amnésie. Une forte proportion de personnes qui vont à l'Église ont oublié de quoi il s'agit. Semaine après semaine, ils assistent au service dans un bâtiment spécial. Ils passent par leur routine consacrée. Ils réfléchissent peu à l'objectif de ce qu'ils font. La Bible parle de l'épouse du Christ, mais l'Église ressemble aujourd'hui à une cendrillon en lambeaux, hideuse parmi les cendres. C'est un graphique impressionnant. La cendrillon en lambeaux a perdu sa beauté, parce qu'elle n'a pas compris les priorités de la vie spirituelle dans l'Église. Si nous voulons retrouver la passion, si nous voulons retrouver le zèle pour la vérité, nous devons nous concentrer sur les bonnes choses. Permettez-moi de dire cela aussi simplement que possible. Concentrez-vous sur ce que je vais dire. Ne laissez pas votre esprit penser à autre chose. Construire une église autour des besoins ressentis est tout à fait contraire aux Écritures. Se concentrer sur vous, vos problèmes, vos dilemmes, vos circonstances et vos situations est contre-productif. Bien qu'elle puisse avoir l'intention de vous aider, la conséquence involontaire devient que vous êtes celui que vous adorez. C'est un problème. Vous êtes au centre. Puis la conséquence involontaire est lorsque vous sentez que vous n'avez pas de besoin particulier ou que l'Église ne fait pas un très bon travail pour répondre à ses besoins. Alors vous n'avez pas besoin d'une Église. Si elle ne vous fournisse pas ce dont vous pensez avoir besoin, vous partez. Nous devons donc revenir à ce qui est vraiment important pour l'Église. Comme l'a dit l'auteur de l'hymne, vous voulez aller à l'Église pour vous perdre dans l'émerveillement, l'amour et la louange. Vous voulez aller à l'Église pour vous oublier, mettre vos propres besoins de côté et vous perdre dans la gloire et l'émerveillement de Dieu. Un prédicateur centré sur Dieu, un enseignant centré sur Dieu, un culte centré sur Dieu, est ce que vous voulez dans une église. Quand vous cherchez une église, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que ceux qui sont constamment amenés devant Dieu, qui sont amenés dans la salle du trône, même du ciel, voient sa gloire, sa majesté et la merveille de qui il est, sa justice et sa sainteté. C'est vraiment triste quand les personnes ne comprennent pas la pleine gloire de Dieu, parce que si vous ne comprenez pas la profondeur de l'être de Dieu, vous ne pouvez pas atteindre les sommets de la louange. C'est ce qui change radicalement la vie. Maintenant, comment choisissez-vous une église? Regardez, vous venez d'une église, je le sais. Nous venons tous d'une église. Vous allez dans une église. Le reste de votre vie, vous allez être impliqué dans une église. L'église va être le centre de votre vie. Cela va être. Certains d'entre vous vont en fait se marier et avoir des enfants. Vous allez les élever dans une église. Le contexte de l'église est franchement effrayant. Dans les lettres que nous recevons à Grace to You chaque semaine, je dirais que la plainte la plus courante que nous recevons est de personnes qui ne peuvent pas trouver une église où ils sentent que la vérité de Dieu est honorée et le ministère est fait de manière biblique. Ce n'est pas une petite frustration. Ce n'est pas qu'il n'y a pas beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. C'est essayer de discerner ce qu'est une bonne église. Je veux vous aider avec cela. Je veux vous parler de ce que devrait être une église. Maintenant, quand je parle de cela, vous savez que vous allez au cœur de mon lieu de résidence, car en tant que pasteur, j'ai un grand amour pour l'Église. J'ai toujours aimé l'Église. Même enfant, j'aimais l'Église. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes d'Hadès ne prévaudront pas contre elle. » C'est la seule institution que Jésus n'ait jamais promis de construire, la seule qu'il édifie. Donc, nous devons être engagés dans l'Église, mais évidemment, toutes les églises ne sont pas fidèles à ce qu'elles devraient être. Alors laissez-moi vous donner quelques principes, d'accord? Ce que vous cherchez dans une église, pas seulement maintenant, mais aussi pour le reste de votre vie, ce ne sont pas des attentes irréalistes, ce ne sont pas des méthodes, rien à voir avec cela, ce ne sont pas des formats, cela n'a rien à voir avec le style non plus. J'ai été partout dans le monde, je suis allé à l'église des hautes montagnes des Andes, en Amérique du Sud, à une église de maison en Chine, à des églises au Moyen-Orient, à des églises en Europe, à des églises en Afrique du Sud. J'ai été partout dans le monde. Partout où je suis allé dans des églises, et j'ai vu toutes sortes de styles d'églises imaginables. Je ne parle pas de cela. Je parle de la substance. Ne regardez pas le style, c'est séduisant. Au mieux, le style ne peut que plaire à la chair. La substance est ce que vous recherchez. La première chose que vous recherchez dans une église est une vue élevée de Dieu. Et nous pourrions passer toute notre vie à discuter de cela. Une vue élevée de Dieu. Proverbe 9:10 dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tout commence par la crainte de Dieu. C'est le début de tout. C'est parfaitement clair dans les Écritures. La sainteté de Dieu est le premier élément central de l'Église. La gloire de Dieu. L'exaltation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, cela bien sûr est établi, je pense, par les écrits de Moïse. Plus précisément dans Lévitique 18-20. Regardez cela un instant. Il y a beaucoup d'endroits où vous pourriez regarder, mais nous allons commencer par Lévitique 18 pendant un moment. Il y a un principe très intéressant qui ressort de ce texte. Le Seigneur a parlé à Moïse et il a dit au verset 2 « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Je suis l'Éternel, votre Dieu. vous ne ferez point, etc., etc. Ce qui se fait dans le pays d'Égypte, et ainsi de suite. Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois. Verset 5. Et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Ce serait de l'inceste. Ne fais pas cela. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, etc. Il continue de parler de diverses autres choses. Vient le verset 30. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. C'est le genre de choses que fait le monde païen. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Au chapitre 19, le même scénario est répété. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. » Au verset 10, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Verset 12, « Je suis l'Éternel. » Verset 14, « Je suis l'Éternel. » Verset 16, « Je suis l'Éternel. » Verset 18, « Je suis l'Éternel. » Verset 25, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Verset 28, 30, 32, 34, 36, 37, « Votre conduite remonte toujours au fait que vous avez Dieu pour votre Dieu. » En Lévitique 20, 7, « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Cela continue comme cela. Au verset 26, par exemple, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. » Il y en a plus au chapitre 21. Il y en a plus au chapitre 22, au chapitre 23, au chapitre 25, et cela continue. Maintenant, ce que je vous dis, c'est ceci. Le fondement de toute conduite repose sur votre compréhension de qui est votre Dieu. Si vous comprenez la gloire et la sainteté de Dieu, cela devient la principale motivation pour la façon dont vous vivez votre vie. Cela a été dit par Paul. C'est un aperçu vraiment profond dans le chapitre 10 de Romains. Et cela mérite d'être rappelé. Il a été dit par l'apôtre Paul, en parlant des Juifs d'Israël, cette déclaration étonnante. Romains 10, 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Vous savez, c'est vraiment incroyable. Quel était le problème avec Israël? Pourquoi étaient-ils apostats? Pourquoi ont-ils rejeté Jean-Baptiste? Pourquoi ont-ils rejeté Jésus? Pourquoi ont-ils rejeté les apôtres? Pourquoi ont-ils rejeté l'Évangile? Pourquoi ont-ils exécuté leur propre Messie? N'étaient-ils pas religieusement rusés? Ne connaissaient-ils pas l'Ancien Testament? N'avaient-ils pas pris des engagements, en particulier les pharisiens et les scribes, pour une étude fastidieuse de chaque détail de la loi de Dieu? Comment pouvaient-ils être si mauvais? Comment pouvaient-ils rejeter leur Messie? Comment pourraient-ils rejeter l'Évangile? Comment pourraient-ils donc rejeter l'accomplissement de tout ce qui avait été prévu, promis à Abraham et à David? Comment cela a-t-il pu arriver? En fin de compte, Romains 10, 3, ne connaissant pas la justice de Dieu, en bout de ligne, ils ne comprenaient pas à quel point Dieu était juste. Maintes et maintes fois, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit « Je suis saint, je suis saint, je suis saint ». Mais ils pensaient qu'il était moins saint qu'il n'était, et qu'ils étaient plus saints qu'ils n'étaient. Dieu étant moins, et eux étant plus, ils pensaient que leur justice était suffisante. C'est toujours une compréhension erronée de Dieu qui mène à l'iniquité. Les mots doux produisent des cœurs durs. N'oubliez pas cela. Les mots doux produisent des cœurs durs. Vous me montrez une église où des paroles douces sont prêchées, et je vais vous montrer une église remplie de cœurs durs. Jérémie a dit que la parole de Dieu est un marteau qui se brise. Une prédication dure produit des cœurs doux. L'amour des mots doux est l'amour d'un cœur pur. En particulier, nous devons prêcher la vérité dure et écrasante sur la sainteté de Dieu et la justice de Dieu, qu'il est intolérant au péché, qu'il déteste le péché et le pécheur, et qu'il jugera le pécheur éternellement. Les Juifs ne savaient pas à quel point Dieu était juste. et c'était le défaut fatal. Si vous n'avez pas une compréhension suffisamment élevée de Dieu, cela est répété et soulevé devant vous tout le temps. Et je ne parle pas de chansons et de chœurs. Je parle d'un enseignement biblique substantiel, théologique, sur Dieu. Alors, vous n'avez pas en place la plus grande motivation pour vivre pieusement. Les personnes ne vivent pas une vie pieuse parce qu'un homme s'est levé et a fait un discours d'encouragement sur le fait qu'il devrait mener une vie pieuse. Les personnes ne vivent pas pieusement parce que quelqu'un s'est levé et leur a dit qu'il y avait beaucoup de conséquences négatives, et que vous ne réussiriez pas si vous ne vous comportez pas de cette façon. Les personnes sont motivées à vivre une vie pieuse, principalement à cause de leur vision de Dieu. Je peux entrer dans une église, je peux être là 5 ou 10 minutes, et je vais vous dire, généralement à quel point leur compréhension de Dieu est profonde par la façon dont ils adorent. Vous savez, la responsabilité du prédicateur, tout d'abord, est de faire descendre les personnes pour qu'elles puissent monter par la suite. C'est ainsi que je conçois mon rôle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, vous devez emmener les personnes dans les profondeurs de l'Écriture, dans les choses profondes de Dieu, si vous vous attendez à ce qu'ils s'élèvent en louange à Dieu ensuite. Si vous avez une congrégation qui ne comprend pas les choses profondes de Dieu, qui ne comprend pas la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de la gloire de sa majesté et de sa personne, alors ce qu'ils appellent adoration n'est qu'une forme de manipulation. Elles sont principalement motivées par le style et le chant de la mélodie, et non par le contenu des mots. Lorsque vous rassemblez des personnes qui comprennent les choses profondes de Dieu, qui commencent à chanter et à louer Dieu, elles sont perdues dans l'émerveillement, l'amour et la louange, pas tant sur la forme musicale que sur la profondeur saisissante de l'Écriture et la théologie mise en musique, le culte superficiel et le sous-produit de la théologie superficielle. Un culte élevé, glorieux, transcendant, captivant, émotionnel et enrichissant, est le sous-produit d'une compréhension profonde de la vérité. Donc la clé en regardant une église est évidemment et manifestement une vue élevée de Dieu. Si tout est une question de réussite, et tout est une question de peaufiner votre vie, de vous sentir mieux dans votre peau, de résoudre vos problèmes et de vous aider, etc., c'est loin de la priorité. Il y a toute une religion juive confrontée par Jésus et par Paul, mais qui était apostat et en route vers l'enfer éternel. Aussi sophistiqués qu'ils étaient dans leur système religieux, ils ont tous péri parce qu'ils avaient une vision trop petite de Dieu. Nous sommes confrontés à une bataille effrayante avec une théologie centrée sur l'homme aujourd'hui, vendant du réconfort psychologique aux personnes plutôt que d'exalter Dieu. On a dit de John Calvin qu'aucun homme n'avait jamais eu une vue plus élevée de Dieu. Est-ce que cela ne se concrétise jamais? C'était Isaïe, vous savez, qui avait une vision de Dieu, et cela l'a écrasé au point où il était littéralement maudit. Mais descendre de cette expérience destructrice de voir la gloire de Dieu est venu son ministère. C'est Isaïe qui, vers la fin de son livre, au chapitre 66, le dernier chapitre, obtient cette parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Je suis plus grand que tout ce que vous pourriez construire. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. C'est ce que je recherche, celui qui tremble à ma parole. C'est de toute chose un âge irrévérencieux, absolument irrévérencieux. C'est l'âge désespérément informel. Vous l'avez remarqué. Il y a peu de temps, je lisais un article qui disait essentiellement que la plupart des personnes, et j'oublie les statistiques, quelque chose comme 75%, la plupart des personnes n'ont jamais assisté à un événement officiel. C'est un monde décontracté. Pour la plupart, il y a une attitude cavalière et désinvolte envers les choses sérieuses. Il y a un abrutissement et une perte de raffinement très évident dans le monde. Donc, nous adoptons cette approche désinvolte et cavalière, et nous l'adoptons envers Dieu. Il y en a tellement dans la culture. J'ai lu la biographie d'Eric Liddell, assez fascinante, le grand sprinteur écossais, vous savez, qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques, et ne courait pas le jour du Seigneur. Sa maman l'a déposé dans une école missionnaire à Londres quand il avait 7 ans. Son frère Rob avait 9 ans. Tous deux sont repartis en Chine en tant que missionnaires. Lui en tant qu'enseignant, et Rob en tant que missionnaire médical, plus tard. Mais leurs parents avaient vécu toute leur vie en Chine. Ils ont ramené les deux garçons à Londres, à 7 et 9 ans. Ils les ont déposés dans un pensionnat. Et la mère est partie, le cœur brisé, pleurant parce qu'elle ne les verrait pas pendant 8 ans. Le biographe dit, « Eric, 7 ans, a reçu son emploi du temps. Êtes-vous prêt pour cela ? Anglais, sciences, mathématiques, français, allemand et latin. À 7 ans. Nous sommes loin de ce genre de préparation mentale. Donc, ce qui se passe, c'est l'abaissement de toute une culture amenée dans un environnement d'église abasourdi. Et il y a très peu de capacité à s'élever au-dessus de cela, apparemment, et à penser grand, grandiose, glorieux, profond et convaincant, et chercher des choses sur notre Dieu. Mais c'est là que tout commence. Une piètre vue de Dieu produit une piètre vue du péché et une piètre vue de tout le reste dans les Écritures. Ainsi, lorsque vous cherchez une église, recherchez une église où la prédication est centrée sur Dieu, sur sa gloire, l'émerveillement de sa personne, et non sur vous ou sur les autres autour de vous, où Dieu est constamment exalté, où la musique est remplie non seulement d'une sorte de style populaire et agréable, mais aussi d'un contenu profond qui vous aide à saisir ce que la musique de l'Ancien Testament était censée faire. Si vous voulez savoir ce qu'il devait faire, lisez les psaumes, où vous apprendrez la grandeur de votre Dieu. Personne ne peut faire de vous un adorateur. Vous adorez Dieu au niveau que votre compréhension de Dieu vous permet. Si vous avez une compréhension superficielle de Dieu, alors c'est comme cela que vous adorez. Parce que la substance de votre adoration vient du contenu de votre croyance, n'est-ce pas? Nous pourrions chanter un hymne comme « Ô Dieu, notre secours dans les siècles passés, notre espoir pour les années à venir. » Et certains chrétiens diront « Ce cantique n'a pas l'air très cool, peut-être qu'ils ne connaissent pas grand-chose de Dieu. » Mais si vous trouvez quelqu'un qui connaît la Bible de bout en bout, « Ô Dieu, notre secours dans les siècles passés. » Et tout à coup dans son esprit vient la grande histoire rédemptrice de Dieu qui se déroule dans l'Ancien Testament, puis notre « Ô Dieu, notre secours dans les siècles passés, notre espérance pour les années à venir », puis son esprit balaye du passé vers le futur, et il en sait assez pour savoir qu'à l'avenir, Dieu va déployer tous ses glorieux desseins dans l'éternité. En d'autres termes, vous introduisez dans le contenu de votre adoration tout ce que vous savez être vrai. C'est donc là que cela doit commencer. Alors, lorsque vous cherchez une église, vous en trouverez une où Dieu est pris très au sérieux. Vous connaissez votre Dieu, et vous êtes confronté à sa gloire, à sa majesté et à sa sainteté. Quand vous savez qu'il est le Seigneur votre Dieu et qu'il est saint, cela vous oblige donc à obéir à ses statuts, à ses commandements et à ses préceptes, comme nous le lisons dans Lévitique. Il y a un deuxième objectif, et je pense qu'il est tout aussi critique si vous cherchez une église. Si vous voulez qu'une église soit ce qu'elle devrait être, et si vous voulez apporter à votre propre expérience de l'église ce qui est nécessaire, pas seulement une vue élevée de Dieu, mais une vue élevée de Christ. Maintenant, je ne sais pas si je dois développer ce problème ou trop en dire. Cela devrait être assez évident pour nous tous. Chercher une église où Jésus-Christ est exalté, pas une église où il est simplement introduit de temps en temps, ici ou là. Je me souviens avoir vu un programme dans une église accueillante pour les soi-disant chercheurs. Et pendant ce programme, il y avait, c'était étrange, il y avait de la musique et il y avait même des gros mots, une sorte d'événement non chrétien. L'idée, cela a été fait dans l'église, les personnes ont été invitées à cette soirée, et en fait, il n'y avait vraiment rien de chrétien. À la fin, une déclaration a été faite. D'une manière ou d'une autre, Jésus a touché notre vie à tous. « Bonne nuit. » Eh bien, je ne sais même pas ce que cela signifie. D'une manière ou d'une autre, Jésus a touché notre vie à tous. Cela ne veut rien dire. Mais je suppose que cela a été un effort pour, je ne sais pas, sanctifier l'événement. Une chose que vous allez trouver dans l'Église du Nouveau Testament est la centralité de Jésus-Christ. Ce n'est pas un addendum. Il n'est pas un PS. Il n'est pas un post-scriptum à la fin du programme. Il n'est pas en quelque sorte coincé à la fin après que vous ayez été au centre de l'attention du prédicateur. C'est pourquoi, si j'avais mon choix, je préférerais prêcher les évangiles que n'importe quelle autre partie du Nouveau Testament, parce que, et je pense que c'est pourquoi la majeure partie du Nouveau Testament se compose des évangiles, et les évangiles sont la vie de Jésus-Christ, la vie et œuvre du Christ. L'Ancien Testament, a dit Jésus, parle de moi. Jésus-Christ est le centre de tout notre culte. Il n'y aurait pas de culte sans lui. Je suis attristé. J'écoute des prédicateurs télévisés qui parlent de toutes sortes de choses, des problèmes et des besoins de certaines personnes. Et je ne sens tout simplement pas la centralité du Christ. Si vous prêchez les évangiles, c'est Christ dans chaque verset. Si vous prêchez le livre des actes, c'est l'œuvre de Christ par le Saint-Esprit dans l'Église. Si vous allez au livre des Romains, c'est le grand traité sur la signification du sacrifice du Christ. Si vous allez au livre des Hébreux, c'est la gloire du grand souverain sacrificateur. Si vous allez au livre de l'Apocalypse, vous allez voir la gloire du Christ revenant et exalté. Il est le thème des Écritures. Il doit y avoir une vue élevée de Christ. Je ne veux pas dire cela dans un sens ésotérique, ou dans un sens du respect. Je veux dire cela en termes de passion de la part de l'adorateur. J'adore chanter des hymnes sur le Christ. J'adore chanter des chansons sur le Christ. J'aime prêcher sur le Christ. Il n'y a pas de plus grand sujet de prédication que le Christ. Je trouve quasiment impossible de me consacrer à parler de questions qui ne sont pas liées à la grandeur de Dieu ou à la personne de Christ, ou de l'œuvre, bien sûr, du Saint-Esprit. Mais je suis attristé par le fait que la gloire de Christ a été réduite dans les églises, qui sont si concentrées sur le peuple et ses besoins. Regardez votre Bible pendant une minute au chapitre 3 des Philippiens, et je veux commenter brièvement cela. Ceci est une partie familière de l'Écriture. Le chapitre 3 des Philippiens, il est si familier. J'y reviens et le lis tout le temps. Les pages sont en train de tomber de ma Bible. Philippiens, chapitre 3. Vous pouvez le chercher. Vous savez, ce sont les versets 3 à 6, où Paul parle de toutes ses réalisations en tant que juif religieux. Il, verset 4. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, à l'égard de la justice de la loi, au moins extérieurement, certainement pas intérieurement, irréprochable. Tout cela, il avait passé toute sa vie à l'accumuler, jusqu'à sa vraie conversion. Mais je viens, je pense que c'est un passage puissant au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Il passe toute sa vie à accumuler tout cela, toute cette auto-justice, toute cette religiosité. Puis il dit, puis, j'ai rencontré Christ, et ce n'était rien d'autre qu'une perte. Je l'avais mis dans ma colonne des gains, vous savez, comme le ferait un comptable, du côté des bénéfices. Je l'ai mis dans la colonne de gains, comme si c'était avantageux pour moi. J'ai rencontré Christ, et j'ai réalisé que c'était une perte. Parce que tous les efforts d'auto-justice sont des efforts accablants et n'accumulent rien d'utile. Alors, il dit que tout a été perdu. Puis, au verset 8, il dit « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Maintenant, il y a une déclaration selon laquelle, à un moment donné de votre vie chrétienne, vous devez vous en occuper. « Je considère que toutes choses sont des pertes. » compte tenu de la valeur supérieure de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai subi la perte de toutes choses, et je ne les compte que pour les excréments, et le mot grec, afin que je puisse gagner Christ. Tout dans ce monde est du fumier par rapport à Christ. Je veux dire, c'est une déclaration incroyable. Peu m'importe ce que c'est, vos réalisations mondaines, vos réalisations, vos possessions matérielles, votre carrière, quoi que ce soit que vous possédez, tout cela, et même votre propre sentiment de bien-être, votre propre confiance, votre propre estime de soi. Paul dit, tout le meilleur de moi, tout ce que j'ai passé à accumuler, une réputation, toute ma vie. Et il avait une noble réputation. Il était un persécuteur financé par l'argent juif, pour persécuter et tuer les chrétiens. Il était considéré comme un noble défenseur du judaïsme. Quand il s'agissait de ses réalisations religieuses, personne ne pouvait donner une liste plus impressionnante. Tout cela est du fumier comparé à la connaissance de Christ. La question qui en découle est à quel point est-il important pour vous de connaître Christ? Il dit ici, « Je considère que tout est une perte, compte tenu de la valeur supérieure de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Pourtant, dans un autre endroit, vous vous souvenez qu'il a dit ceci, « Afin de connaître Christ. » Descendez au verset 10. afin de connaître Christ. De quoi parles-tu, Paul? Tu viens de dire que tu le connaissais. Maintenant, tu dis que tu veux le connaître. De quoi parle-t-il ici? Il dit qu'il le connaît, mais le connaître n'est pas suffisant. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Je veux connaître la communion de ses souffrances. Je veux être conforme à sa mort. Que veux-tu dire? Je veux vraiment le connaître. Je veux le connaître mieux que je ne pourrai jamais le connaître, en sachant ce que je sais maintenant. Vous devriez aller à l'église et dire que le but d'aller à cet endroit est que je puisse mieux connaître Christ, mieux que maintenant. Je veux le connaître bien mieux que je ne le connais déjà. Je veux tout savoir sur lui. Je veux tout savoir sur son caractère, tout sur son esprit, l'esprit du Christ. Je veux tout savoir sur ses attitudes. Je veux connaître chaque mot qu'il a dit. Je veux le comprendre. Je veux le saisir. Je veux comprendre la profondeur de sa compassion, la grandeur de son affection, de son amour. Je veux comprendre le zèle qu'il avait pour la vérité, et je veux comprendre le cœur de la colère qui est allé contre les pécheurs quand il a secoué et nettoyé le temple. Je veux comprendre chaque nuance que l'apôtre Paul dévoile dans les Écritures concernant le sens de la mort de Jésus-Christ. Je veux comprendre cela. Je veux connaître le même pouvoir qu'il a ressuscité des morts. Je veux comprendre ce pouvoir et le connaître, car il vit en moi. Je veux connaître la communion de ses souffrances. Que veut-il dire par là? Il a dit, « Je veux souffrir comme il a souffert. Je veux avoir un partenaire dans ma douleur. Je veux lui faire comprendre que je souffre pour les mêmes vérités et les mêmes réalités pour lesquelles il a souffert. Non pas expier le péché, mais souffrir la haine de ceux qui en veulent à la vérité. » Paul a dit, « Je veux même être conforme à sa mort. Je veux mourir comme il est mort, fidèle à Dieu, pour la vérité. Je veux le connaître. » Je me demande si dans l'évangélisation contemporaine, il y a une grande partie de ce désir dans le cœur des personnes, de connaître le Christ comme cela. Pouvez-vous réellement regarder toutes les choses dans votre vie et dire, « C'est juste du fumier pour moi. Ce qui me motive vraiment, c'est de connaître Christ. » Comme je l'ai dit il y a un instant, j'aime particulièrement prêcher sur les évangiles. Il me faut beaucoup de temps pour parcourir les évangiles. Mais je dois vous dire ceci, plus lent vaut mieux que plus vite, les amis, parce que je ne veux rien manquer. L'un des profonds regrets de ma vie, et c'est un sérieux regret avec lequel je vis, et je n'en parle pas souvent, mais c'est l'un des maux les plus profonds de mon cœur, et il est là depuis beaucoup, de nombreuses années. C'est que je connais certaines choses au sujet de Christ, grâce à mon étude des Écritures, que je n'ai pas le temps ni l'opportunité de dire aux autres. C'est l'un des. Vous me demandez comment préparer un message. Mais moi, je ne prépare jamais. Je n'étudie jamais la Bible pour faire un sermon. J'étudie la Bible pour la comprendre. Après l'avoir compris, je peux généralement penser à quelque chose à dire. Mais ce qui sort de ce sermon pourrait être un dixième de ce que j'ai compris. Parfois, cela s'écoule simplement dans les conversations. Et parfois dans des moments comme celui-ci, lorsque je partage ces choses. Mais c'est une de mes frustrations. Quelqu'un m'a posé des questions sur le livre que j'ai écrit, « La bataille pour le commencement ». Et quelqu'un, vous savez, a dit qu'il appréciait le livre, et ils m'ont demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, « Je n'en suis pas content. Je ne suis vraiment pas content de ce livre. Cela me dérange beaucoup. » Ils ont dit, « Pourquoi ?» J'ai dit, « Parce que quand je suis passé par Genèse 1 à 3, le livre aurait dû être si gros. » Il montre de ses mains la taille du livre. Et il était gros, mais pas assez. Il y a beaucoup de choses que personne ne saura. C'est très frustrant pour moi. Donc, comme je l'ai dit, vous avez la chance de ne pas aller encore plus lentement et plus longtemps. Quelqu'un m'a dit que ma prédication est comme mon golf, long, à droite, et toujours près d'un danger. Mais je ne manque pas de matériel. Je manque de temps. Je serai mort avant de pouvoir tout faire. J'aurai, et c'est intéressant pour un prédicateur, j'ai tellement de choses dans ma tête qu'à ma mort, je me sentirai frustré, car je n'ai pas pu tout vous dire. Permettez-moi de vous donner une troisième chose à laquelle vous devez penser lorsque vous cherchez une église. Et au fait, une église qui est consumée par la gloire de Dieu et la majesté de Christ va vraiment être un lieu saint. Mais il y a une autre chose qui est évidente. Je veux dire, j'ai à peine besoin de le dire, et je vais juste le dire en passant. Vous devez être dans un endroit où les Écritures sont élevées, où les Écritures sont élevées, pas là où les idées de quelqu'un sont ponctuées de versets bibliques. Le psaume 138:2 dit « Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout nom. » Jésus a dit « nous vivons de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, citant Deutéronome. Vous devez être dans un endroit où la parole de Dieu est proclamée et expliquée. J'ai dit que le sens de l'Écriture, c'est l'Écriture, et rien n'est aussi puissant. Lorsque vous comprenez le sens des Écritures, vous venez de puiser dans la vérité la plus puissante de l'univers. Cela n'a aucun sens d'être dans un endroit où la parole de Dieu n'est pas proclamée. Vous savez, 1 Timothée, maintes et maintes fois, Timothée est instruit au sujet de la parole et à quel point il est important d'être fidèle à la parole. Et dans le chapitre 3, il y a une sorte de raison de la résumer. Il dit, verset 15, « L'Église du Dieu vivant, qui est le pilier et le soutien de la vérité. Nous vivons dans tout un univers de mensonges. Satan est le père du mensonge. Il les a engendrés dans le jardin, comme nous le savons tous. Le monde est plein de mensonges. Il doit y avoir un endroit où vous pouvez aller entendre la vérité, pas les idées de l'homme, pas les impressions de l'homme, mais la vérité. Il y a quelques années, l'éditeur du Los Angeles Times et 5 ou 6 autres journaux nationaux et le propriétaire d'une douzaine de stations de télévision affiliées au réseau m'ont emmené déjeuner et m'ont posé une question. Il a dit, « Vous savez, je suis venu vous écouter plusieurs fois et je veux juste vous poser une question. Vous avez ce public, vous avez cette influence. Pourquoi ne donnez-vous jamais votre avis sur les choses ?» Nous étions assis au déjeuner et j'ai dit, « Vous voulez vraiment une autre opinion ? Vous n'en avez pas assez ? Vous savez, pouvez-vous vraiment bénéficier d'une autre opinion ? Vous avez tous les jours des articles d'opinion dans votre journal. Vous en voulez plus ?» Il dit, en y pensant, « C'est un bon point. » J'ai dit, « Cependant, je serais très heureux de vous écrire une chronique qui n'est pas mon opinion. » Et de qui serait l'opinion ? Ce ne serait l'opinion de personne. Ce serait la vérité de Dieu. Je serais heureux de le faire. Je n'en ai plus jamais entendu parler. Je ne parle pas d'opinion. Il s'agit de donner la parole à Dieu. J'étais assis dans l'une de ces séances. Ils avaient autrefois ce qu'ils appelaient des séances de sérendipité. C'était une thérapie de groupe. Je ne suis pas vraiment pour la thérapie de groupe. Les personnes étaient assises à dire toutes sortes de choses qu'ils ne devraient pas dire. Ils ont donc dit, « Vous savez, nous voulons que vous preniez contact avec votre moi intérieur le plus profond. » Donc ils ont distribué de petits gobelets en papier à tout le monde, et ils ont dit, « Faites à ce gobelet ce qui serait une représentation de la façon dont vous vous voyez. » J'ai donc pris cette petite tasse dans la main, et je me suis assis à côté d'un homme. C'est un homme assez complexe, et il a fait un truc en origami, vous savez, comme l'oiseau que les Japonais font avec du papier. Je me suis assis là à penser, qu'est-ce que je fais avec cette tasse? Il nous donne environ 45 minutes. Alors je me suis assis là, et j'ai regardé tous ces hommes, avec les nuances, vous savez, essayant de refléter toute la complexité de leur personnalité. Enfin, j'ai eu une idée. J'ai enlevé le fond, j'avais fini. Puis ils sont venus, et ils ont demandé à certaines personnes de s'expliquer sur leur tasse. C'était une sorte d'épiphanie pour moi en ce moment, et ils m'ont choisi. Donc j'ai dit, c'est assez simple. Je me vois simplement comme un canal par lequel la vérité de Dieu peut couler. Oh frère, comme c'est ennuyeux! Quelle dimension unique! C'est comme cela que je me vois. Chaque opportunité pour moi, que ce soit au collège, au séminaire, à Grace to You ou à Grace Church, est la même. Il s'agit de la vérité, et c'est la vérité divine. La vérité divine est ce qui me dynamise. La vérité divine est ce qui m'a été déposé. C'est un trésor que je dois garder. C'est un message que je dois proclamer, et je suis responsable devant Dieu de le faire. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais à contre-cœur. C'est quelque chose que je fais passionnément. Quand vous choisissez une église, vous trouvez une église où les personnes qui sont les bergers, les personnes qui prêchent et enseignent, ont cette passion de proclamer la vérité divine avec précision et fidélité. Tout autre élément est une représentation inexacte de leur responsabilité. Je me souviens d'avoir lu l'histoire d'un puritain. C'est un puritain américain sur la côte est dans les années 1800 qui a pris une église et a dit aux personnes qu'il allait prêcher à travers la Bible. Les dirigeants de l'église étaient si fâchés qu'ils ont verrouillé les bancs. Avez-vous déjà été dans une vieille église de la Nouvelle-Angleterre où ils avaient une porte battante, une serrure et où les personnes achetaient leurs bancs, comme des sièges, au Dodger Stadium? Les riches achetaient les sièges à l'avant et les pauvres les petits à l'arrière. Et un homme se tenait en hauteur avec une longue canne à pêche qui avait une balle au bout pour frapper les enfants sur la tête s'ils parlaient pendant le culte. C'était comme cela. Ces hommes étaient tellement fâchés parce que ce prédicateur allait prêcher à travers les Écritures, qu'ils ont verrouillé les bancs pour que les personnes qui voulaient l'entendre devaient se tenir à l'extérieur du périmètre. Il a donc prêché aux personnes qui se tenaient autour du périmètre, à travers les Écritures pendant 9 ans, avant que les bandes soient déverrouillées. C'est l'engagement. Il savait ce qu'il était censé faire, et il l'a fait. J'admets maintenant que vous pourriez vous faire emporter. Un autre puritain est venu dans une église de la Nouvelle-Angleterre et a dit qu'il allait prêcher sur le livre d'Ésaïe. Il a prêché pendant 25 ans et est décédé au chapitre 8. C'est trop lent, vous comprenez? Lorsque vous trouvez un endroit qui enseigne la parole, vous trouverez un endroit où la doctrine est claire. Vous trouverez un endroit où la sainteté est recherchée. Vous trouverez un lieu d'autorité spirituelle, très essentiel dans votre développement spirituel et pour la gloire de Dieu. Père, nous te remercions pour notre temps et nous rappelons quel est ton désir pour ton Église. Nous voulons t'exalter ainsi que ton Fils et ta parole. Nous devons faire un petit inventaire dans notre vie pour savoir si cela est vraiment important pour nous. Je prie pour les étudiants pour qui l'Église est un vrai fardeau, qui y vont parce qu'ils doivent y aller, qui sont assis là avec indifférence et apathie. Ils n'ont pas mené la bataille pour découvrir la vérité et pour la raffiner, et ils n'ont pas alors vécu les merveilleuses passions de la protéger et de la proclamer. Ils sont seulement présents. Il y a une apathie générale pour cette vérité. Je prie, ô Dieu, que tu leur accordes, par ton Esprit Saint, la grâce de poursuivre la connaissance du Saint, de poursuivre la connaissance du Christ, et de poursuivre la connaissance de la vérité. Dans cette connaissance croissante et plus profonde de toi, de ton Fils et de ta parole, viendra le nouvel amour glorieux pour ton Église, comme le lieu où le désir le plus profond de notre âme se rencontre. Nous voulons te connaître, ô Dieu, et Christ, et la parole, car en cette connaissance vient notre satisfaction d'âme, vient notre puissance, vient notre joie. Mets-nous dans des endroits comme cela tout au long de notre vie, et utilise-nous même comme leader pour assurer que l'Église est ce qu'elle devrait être. Nous te remercions au nom de notre Sauveur. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.